sais pas, c'est qu'à côté de ça, c'est Jean-Louis, quelqu'un qui a de multiples vies, c'est un scientifique, c'est quelqu'un qui a étudié l'astronomie. Pour la petite histoire, on a quand même chaté quand on était jeune et frais, alors que lui était au Chili dans un observatoire.
C'était vraiment de la SF, j'avais oublié à quel point. Mais effectivement, on avait
passé un article qui suggérait que le territoire observé dans la banlieue de la galaxie correspondait à cette étoile qui est située dans une étoile qui aurait avalé une naine blanche lors d'un phénomène de forme de collision stellaire. Et les cordes cosmiques, c'est quelque chose dont on parle encore un peu. Donc, c'est le genre d'exemple que je peux donner très rapidement sur ces interactions entre les autres domaines de la connaissance et la science-fiction. La science-fiction a une longue histoire, comme vous remontez parfois au compte philosophique. Et ce qui est quelque part assez intéressant, c'est que le compte philosophique, et puis dès le 18e siècle en France, on a commencé à avoir des textes qui incorporaient la science de l'époque. Il y a des choses fascinantes dans la science-fiction ou la littérature française du 18e siècle. Il y a un savant canadien, excellent philosophe, qui refuse de parler de science-fiction, c'est malheureusement la part des savants de littérature, c'est le mal. Mais de mon point de vue, c'est ce qu'ils écrivaient à l'époque, et il y a des pages fascinantes, presque deux génisses dans ces textes du 18e siècle, des aventures en ballon, qui c'est du proto-steampunk, pour être honnête aussi, c'est 600 ans pratiquement avant Jules Verne. On a déjà des aventures en ballon. Les armes érotiques, d'ailleurs, ça, c'est assez fascinant. Le ballon sert maintenant à la libération sexuelle du héros. Donc, il y a une longue histoire. Il faut en donner des références. tu as attiré l'attention du public. J'ai un article en ligne, je pense, sur dans le site de Res Futuré, la revue francophone d'études sur la science-fiction, où je parlais à la fois du Frankenstein français, parce que c'est une découverte récente aussi dans le domaine de la science-fiction. Avant le roman de Shelley sur un personnage appelé Victor Frankenstein, il y a eu un roman écrit en pleine Révolution française par j'ai oublié son nom malheureusement, un personnage qui donne, par un auteur, qui donne à l'un de ses personnages le nom de Frankenstein. Il manque le N. La savante américaine qui a lu ajoute le N de façon très lapsus, tout à fait fascinant. Mais il manque le N, j'ai consulté le texte de la Bibliothèque nationale de France. Et ça fait partie de cette proto-SF française. On ne sait plus comment je suis arrivé là. Mais l'idée, c'est que la science-fiction a une longue histoire qui remonte en partie au point philosophique de Voltaire, où on se sert de la fiction pour exprimer une idée. Mais très rapidement, on a commencé à se servir des découvertes de la technique du 18e siècle, comme les ballons, pour raconter des aventures.
C'est un certain nombre d'exemples, donc d'influence directe, d'idées qui viennent d'articles. Mais il y a aussi une chose qui est caractéristique dans ce que tu écris, et c'est aussi le cas dans ce que tu écris pour la jeunesse, c'est que tes personnages font preuve d'une curiosité absolument phénoménale. Ils ne peuvent pas s'empêcher de se poser des questions et d'aller voir. Bon, c'est un petit peu le trope de la littérature, d'une littérature jeunesse, mais les tiens, ils sont tenables. On sent que ce sont des futurs scientifiques, ils ont envie de démonter le truc à quand on le lit, quand ils le voient.
Je pense que c'est relativement naturel pour moi, et qu'au point où justement je vois assez peu, et je pense que je vais y porter attention.
C'est très bien, d'ailleurs, ce sont des personnages dynamiques, mais on se rend compte que chez toi, quand on voit ton parcours, c'est de l'action, c'est pas seulement vouloir rester enfermé chez soi, accumuler de l'information. C'est aller la chercher, la mettre, la challenger, et faire ce travail, et puis à partir de là, on fait quelque chose, bâtir quelque chose avec.
Je suis influencé par des auteurs comme Heinlein, qui, dans le monde, il me semble, les romans jeunesse aussi, avaient un certain nombre de requêtes protagonistes assez curieux de nature, assez débrouillards, pour être toujours pour leur propre bien, vers la fin, quelqu'un comme Paul King de Mars. C'est plus intéressant de voir ce qu'Allemagne a fait avec elle et à la fin, justement, de ses romans de jeunesse. Mais en même temps, elle a passé sa génération aux États-Unis, d'auteurs qui, justement, ont beaucoup plaidé pour la démarche extrapolative en science-fiction et de toujours se poser la question ici. Donc, à partir justement, peut-être d'une actualité dans une revue de publication scientifique, et je suis abonné à deux ou trois d'entre elles, et
sont les bibliothécaires. Je ne sais pas si tu connais cette série télé.
J'en ai entendu parler et je pense qu'un de ces jours, Martin et moi, on va regarder ça, c'est que les bibliothécaires.
Ouais.
Mais il y a donc ça, alors que justement, on vit, et on peut le voir en France, on le vit aussi dans d'autres pays, on a une espèce de lutte entre les gens qui savent et les gens qui estiment qu'on ne doit pas savoir. Entre les gens qui veulent être des experts pour comprendre et ceux qui disent, après tout, j'y connais rien, mais ma parole a autant d'importance comme j'y connais rien que celle de quelqu'un qui s'y connaît.
Dans deux des nouvelles que j'ai faites pour cette série, justement, c'est une série d'anthologie qui était ouverte à plein de gens. On pouvait écrire de la fantasy qui se passait à l'époque du Moyen-Âge, de l'Antiquité ou de la Renaissance, donc plus fantastique, de l'horreur à la limite. Mais moi, j'ai décidé de faire de la science-fiction et d'essayer d'éviter aussi d'avoir des voyages dans le temps. Alors, ça limitait un peu. Deux dernières nouvelles, c'était des nouvelles justement où j'explorais un peu les questions de l'évolution des savoirs scientifiques, la question du progrès. Est-ce que, par exemple, il aurait été possible, c'est une vieille question de SF, Ernst Troegekamp avait écrit un roman, Lest Darkness Falls, pour les ténèbres français, je pense. C'est un roman que j'ai lu et relu dans ma jeunesse, de parmi les ténèbres. Oui. Voilà. Et là, il y avait quand même un changement historique, mais là, j'étais plus intéressé de faire ça, moins avec dans la lignée du roman de Mark Twain, où il y avait donc un autre inventeur Yankee qui remontait à Cour de Bonaventure, et assez clairement, Ernst Troegekamp s'inscrivait dans cette lignée. Moi, je me posais plutôt des questions sur la dynamique interne. Il y a quand même eu dans l'Antiquité le musée d'Alexandrie, il y a eu des scientifiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a des gens qui, justement, soutiennent que quelque part, quelqu'un comme Ptolémée était, on pourrait dire, l'équivalent dans l'Antiquité de quelqu'un comme les compagnies de tabac ou les compagnies pétrolières d'aujourd'hui. Quelqu'un qui est pour préserver ses privilèges, peut-être. À la tête du musée d'Alexandrie était prêt, disons, à repousser l'héliocentrisme, à imposer un géocentrisme qui lui permettait aussi de faire passer une astrologie très populaire à l'époque dans le cadre d'une vision du monde aristotélicienne. Et est-ce que j'ai essayé de voir les images du scénario où on pouvait écarter les regards de la même Ptolémée, peut-être plus tard, une histoire différente, un peu à renouveler. L'histoire de Bacon, c'est un peu aussi quelque part cette interrogation-là. Et justement, en ce moment, on se met en place naturelle d'aller effectivement dans le sens où, bon, malgré tous ces défauts, le progrès positif, dans l'histoire que j'écris, justement, j'ai décidé qu'en fait, le rebondissement serait plutôt un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a le collège invisible des mages virtuoses du tournant du XVIIe siècle, les Campanella, les utopistes qui, persécutés par le fanatisme catholique et les grands protestants, et qui rêvent de la révolution scientifique qui est toute proche, et qui en fait sont manipulés par les extraterrestres, et encore j'ai pas tout à fait laissé la nature des extraterrestres, mais qui veulent en fait laisser une solution par le Saturne quelque part. S'assurer que la réaction fanatisme religieux sera civile dans le sens d'un progrès intolérant et triomphaliste et positiviste, qu'à la fin, la Terre sera ruinée par le progrès technique et du coup, les humains n'arriveront jamais les étoiles. Et donc, en fait, c'est dans cette nouvelle-là, c'est plutôt les partisans du progrès qui sont manipulés par les extraterrestres qui veulent étouffer l'expansion humaine. Mais pour moi, c'était justement quelque chose avec. Il m'a fallu penser à contre-courant de mes propres tendances pour imaginer ça. Alors, on fait ça un petit peu souvent, justement, parce que c'est intéressant d'aller voir de l'autre côté de ce qu'on est. Et je constate que ces dernières années, tu as quand même beaucoup fait de nouvelles, beaucoup travaillé autour de nouvelles liens qui sont architecturées aussi, quelquefois l'une par rapport à l'autre, qui se répondent. Et c'est une volonté de faire ce travail-là.
Oui, c'est aussi pour les faisait un petit bout de temps que je suis un peu loin de l'écriture après 2009 pour des raisons de vie personnelle. J'ai déménagé, je me suis marié, j'ai tenté certaines choses dans le boulot pour faire avancer les choses. Et bon, les nouvelles, ce sont des choses que je peux caser un peu plus facilement dans un emploi du temps parfois chargé. Et quelque part, j'avais aussi envie de me renouveler, au moins, même si j'allais explorer, même si je ne change pas nécessairement mes outils d'écriture, essayer d'y revenir avec plus de maturité. Ça fait 32 ans que j'écris, que je publie en tout cas, depuis 84. Et j'avais envie d'avoir une petite pause et d'explorer un peu différentes voies. J'ai continué parfois à rester dans les mêmes univers que j'ai créés il y a longtemps, mais avec, j'espère, des outils de la maturité et des points de vue un peu différents. Et aussi, en essayant de continuer à rester informé par rapport à ce qui se fait en science. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a en France une floraison de micro-éditeurs. Alors, j'espère qu'aucun de ces éditeurs ne verra ça, ne sera discuté dans ce terme. Des éditeurs comme Rivière Blanche qui payent très peu, mais qui sont prêts à publier des livres et parfois à s'ouvrir justement à des auteurs moins commerciaux, ou du moins à des fictions moins commerciales, parce que ces temps-ci, disons, ces années, chez les éditeurs commerciaux, c'est très difficile de passer des recueils, même des anthologies. Autre qu'associer des événements comme les utopiales ou les imaginales. Et donc, on a des éditeurs comme, je pense, Arcuir et Saint-Toulouse, qui n'est pas un commercial, mais qui a justement un tropisme scientifique, pro-science ou pro-technique, ou moins un intérêt pour les problématiques scientifiques et techniques que je trouve intéressant, et qui pour moi manquait un peu dans le décor de la SF. J'espère terminer, certains moments, mais ces temps-ci, les nouvelles me parlent.
Et tu me dis que tu pratiques beaucoup de choses en numérique.
C'est aussi que ça appartient à ces explorations. Pour l'instant, j'ai refusé d'investir le travail pour faire la promotion, la numérisation de mes propres œuvres. Alors, j'essaie de voir ce qui se passe si je laisse les éditeurs qui veulent travailler avec les numériques faire le travail de promotion, de vente, de commercialisation. Alors, tout récemment, comme Jean-Claude le sait, j'ai ajouté à ma bibliographie une section numérique qui n'est pas très étoffée, je pense, compte une demi-douzaine de mentions à peu près. Et il y en a d'autres autres qui vont sortir. Et j'attends un peu de voir les résultats en termes de vente et de rentrée d'argent. Que ça fait des échos que j'ai eu de mes collègues en France qui ont fait des tentatives en numérique ne semblent pas très encourageantes. Mais en même temps, il y a des collègues en Amérique du Nord qui vendent très bien en numérique. Alors, je suis un peu partagé, quelque part, parce que oui, je fais beaucoup de choses, parce qu'il n'y a que 24 heures dans la vie par jour. Je suis. Et parce que j'aime écrire, que c'est mon plaisir d'écrire, que c'est mon ambition d'écrire, que c'est, il me semble, c'est ce que je peux faire de mieux, plutôt que de passer du temps à choisir des couvertures pour les éditions numériques de mes histoires ou de mes romans, faire la mise en page. Il y a d'autres gens qui peuvent faire ça, mais a priori, ce que je peux écrire, ce que j'écris, c'est ce que personne d'autre ne peut le faire. Pour l'instant, c'est mon point de vue, mais j'expérimente. J'ai placé chez les éditions multivers fondées par Jean-Claude, Herbal, Emmanuel Gob et d'autres personnes peut-être. Votre un des anciens romans paru au fleuve noir, La Suisse de l'Atlantique. Et j'attends de voir les résultats de vente.
Je crois que tu sois un petit peu déçu. En ce qui concerne les États-Unis, justement, pour en parler avec Marc Christic, il est clair qu'il y a des domaines, en particulier le domaine de la romance, dans lequel ça marche extrêmement bien. Marc Christic m'a raconté une anecdote qui est intéressante. Il, avant le soir, il voit son épouse morte de rire devant sa liseuse en train de lire un bouquin, et donc s'aperçoit qu'il s'agit d'un livre où si elle avait si triché avec un pseudo ou pas, ou si elle avait gardé le même pseudo, etc. Donc, déjà, il y avait l'avantage d'être un peu plus nul. Et après, bah, l'avantage du numérique, c'est que dans certaines conditions, on garde une plus grande part des droits d'auteur. Ce qui, pour les mêmes chiffres de vente, peut multiplier les revenus. J'en ai bien conscient, mais comme je le dis, je ne suis pas nécessairement convaincu que je pourrais faire fructifier dans les mêmes largeurs. De célébrité.
Non, c'est juste que ben, je pose toujours la question parce que j'ai le sentiment, quand je vois la difficulté qu'a la littérature québécoise s'imposer en France pour des raisons de distribution, alors que le livre numérique n'a pas ce problème-là. Le livre numérique est disponible sur Amazon.fr et qu'il ait été dans la partie comme francophone. Je me dis, c'est dommage que le catalogue québécois ne soit pas plus étoffé. Parce que justement, moi, j'en ai acheté un certain nombre. J'ai acheté pas mal de livres en Amérique, et je me dis qu'il y a plein de livres que j'aimais bien qui n'y sont pas. Et c'est dommage. Et pour avoir fait moi-même le tutoriel expliquant comment on fait un livre numérique à partir de son fichier, je sais que c'est facile.
Oui, ben, ça sera. Je pense que c'est la même chose à faire. Pour l'instant, je préfère écrire.
Je comprends. C'est juste que si un jour, dans 4-5 ans de ça, tu as un week-end de livre, à ce moment-là, dans le week-end, tu peux mettre 7-8 bouquins de mon catalogue, y compris des livres inédits d'ailleurs, en numérique sur les plateformes.
La question va peut-être se poser pour les romans jeunesse, parce qu'à ce moment-là, j'irai peut-être voir multivers, peut-être plus la mort. Mais c'est facile de même trouver un week-end de livres, c'est difficile. Je me sens facilement hypothéqué.
Alors, moi, je vais utiliser honteusement le fait que tu es quand même un des porte-parole et un des personnages présents de la délégation québécoise. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où va la littérature québécoise ou d'expression imaginaire pour trouver une expression qui va bien?
Tout d'abord, je vais faire un peu de publicité pour une table ronde que nous aurons sauf erreur samedi matin sur le même sujet avec la délégation québécoise, je pense, au complet. Aborder tous les sujets imaginaires. Je suis en train de préparer, bon, ça fait des années que je prépare des ouvrages, des sommes sur l'histoire de la science-fiction québécoise, donc très précisément. Parce qu'il y a une science-fiction québécoise, il y a une science-fiction canadienne française, mais il y a aussi une longue tradition du fantastique et beaucoup plus jeune, une tradition de fantasy québécoise, canadienne, française. Et il y a des évolutions fascinantes et plus on pense sur le corpus, plus j'arrive, je crois, à dégager certaines tendances fortes. Ce qui me frappe très fort, je viens de lire le roman d'un jeune auteur, qui s'appelle Boulot Massé, M.E.F.A., où il ne restera que des monstres, et qui est un roman de science-fiction politique québécoise. Ça rappellera des souvenirs aux lecteurs français qui ont connu les années 70. On pourrait même parler d'une nouvelle science-fiction politique québécoise, vu qu'il y en a eu une ancienne à certaines époques où on s'est servi de la science-fiction au Québec pour imaginer des utopies, des modèles politiques différents. Mais cette fois-ci, on est dans un modèle très altermondialiste depuis à peu près une vingtaine d'années. Il y a une série de romans politiques qui, essentiellement, approchent la révolution. C'est d'un point de vue québécois, c'est assez fascinant parce que, d'une part, on a une situation politique bloquée au Québec avec les mêmes deux partis qui s'échangent le pouvoir et en fait même un seul parti qui contrôle les destinées du Québec depuis 15 ans. Il est assez conservateur à certains égards, corrompu et c'est mis à dos la jeunesse, une partie de la jeunesse en tout cas depuis plusieurs années. C'est vrai en France. je ne parlerai pas de France aujourd'hui. Et je pense qu'il y a peut-être des échos par rapport à des ouvrages politiques français. Il faudrait effectivement que je pose la question à certains auteurs, savoir s'ils ont lu, disons, Yardal, Rêveur, par exemple, Rêve, René Garrel, en fait. contemporains chez les auteurs québécois. Et donc, ça, c'est quelque chose que je vois. Il y a aussi la science-fiction québécoise depuis longtemps, un jeu, je dirais, avec la métaphysique, la religion, qui est aussi assez frappant. Esther Rochon est un auteur très surveillé maintenant entre la science-fiction, le fantastique. Et souvent, ce qui fait qu'on a tendance à la rattacher peut-être un peu à la science-fiction, c'est qu'elle prend sa mythologie assez au sérieux, d'une certaine façon, pour qu'on ait plus l'impression de lire la création de monde comme en science-fiction, plutôt que d'un jeu dans un monde imaginaire, un peu adulte, comme en fantasy. C'est quelque chose qui est très, très ancienne racine au Québec et que je vois surgir un peu dans plusieurs cours de la science-fiction québécoise. Quand on parle d'auto-édition ou d'édition numérique, on a vu le même aussi ces dernières années au Québec, où de plus en plus d'auteurs se font éditer à compte d'auteurs. Ça donne des ouvrages assez mal écrits, mais qui tous sont aussi assez fascinants parce que la science-fiction québécoise, c'est la moderne, disons, elle est apparue dans les années 70. C'est en partie un produit d'importation, en partie un produit, on pourrait dire, sous influence, c'est-à-dire, quelque part, on a eu des Français, comme Norbert Spener, Jean-Marc Bonvic, Isabelle Renard-Bourg, et des fils de Français ou Françaises, comme Joël Champetier et moi-même, et qui en même temps étaient de grands fans de ce qui se faisait aux États-Unis et qui, du fait de leur bilinguisme plus ou moins grand, avaient parfois un accès direct à cela. Et il y a un certain nombre d'auteurs québécois francophones qui écrivent directement en anglais, comme Claude Lelumière, Yves Ménard, moi-même aussi à l'occasion. Et cette science-fiction moderne québécoise, née dans les années 70, s'est inscrite très vite dans les réseaux internationaux de production de SF. On plaçait parfois des romans en traduction qui sont parus aux États-Unis ou dans des anthologies canadiennes, anglaises, britanniques, dans le cas de Bonnard, américaines à l'occasion aussi, états-uniennes, comme vous savez. Et terme que j'utilise aussi à l'occasion parce que nous sommes tous nord-américains, nous sommes tous américains en terre des Amériques. Et bon, les États-Unis d'Amérique se sont abrogés le terme un peu de façon un peu péremptoire au 18e siècle. Et depuis, on essaie de les corriger, mais ils ne disent pas que ça se fait appeler américain. Les Mexicains aussi sont assez proches de ça, c'est pas juste les Canadiens et les Québécois. Bref, donc il y a eu cette science-fiction québécoise qui s'est constituée dans les années 70 qui a rejoint, on pourrait dire, la communauté mondiale de la science-fiction. Et depuis quelques années, ce que je vois, c'est une sorte de science-fiction québécoise qui est. J'ai tendance à l'appeler une science-fiction naïve, qui est née, d'ailleurs, plus, on pourrait dire, du visionnement des séries américaines, du cinéma à grand succès, et malheureusement très peu de la lecture. Et parce qu'ils ne peuvent pas, évidemment, faire des films eux-mêmes ou créer des séries télé, ils écrivent des choses qui sont inspirées par ce qu'ils ont vu au grand ou au petit écran, mais qui se raccrochent parfois assez mal à la littérature. C'est comme un peu marrant. Mais ça fait partie des évolutions modernes.
Tu penses qu'il y a une colonisation insidieuse des USA ou en termes d'approche narrative? Parce que tu me dis qu'à l'origine, on avait quand même une approche narrative héritée des Français.
Mais héritée aussi de ce qui se faisait aux États-Unis, parce que justement, des gens comme Isabelle Renard-Bourg, on avait lu aussi bien Stanislas Lem que Joanna Russ, je pense, d'autant en tout cas. Entre autres, c'était des lecteurs et des lectrices qui se sont mis à écrire et qui ont écrit de très belles choses. Ce que je vois maintenant, c'est plus une colonisation médiatique, audiovisuelle. Bon, en partie, hein, ça c'est comme je dis, il reste des auteurs comme Philippe Aubert-Côté qui est ici et qui réussit à marier superbement des influences littéraires, scientifiques aussi, parce qu'il est très influencé par ce qui est possible dans les biotechnologies. Et aussi du côté de la science-fiction médiatique.
ça qu'il y a évidemment au Canada, c'est qu'il y a du pain, les mêmes mécanismes qui s'appliquent à l'intérieur du Canada, ce qui permet aux éditions à lire, par exemple, de traduire avec un peu de l'aide des auteurs canadiens anglais. Et les auteurs canadiens anglais, depuis Van Vogt, par exemple, circulent facilement aux États-Unis, se font publier assez facilement aux États-Unis, ce qui veut dire qu'on peut, que les éditions à lire, si elles peuvent concurrencer les sommes offertes par les éditeurs français peuvent, avec l'aide du gouvernement canadien, faire traduire des auteurs canadiens. C'est pas toujours le cas, puisque les maisons d'édition françaises sont de plus gros moyens, mais ça fait aussi que ça donne un certain accès, ça ouvre une fenêtre sur ce qui se fait ailleurs. En même temps aussi, il y a effectivement le fait qu'on vit au Québec, au Canada français, dans un monde où la réalité anglophone est de l'autre côté de la rue, ou à quelques bouts de l'eau, à quelques clics sur l'écran. Et j'écoutais le grand journal ce matin à la télé-réalité française où différents intervenants discutaient sur la façon de traduire, de démolir en anglais. C'était pas beau. Ce n'est pas toujours bon non plus au Québec. Il y a peut-être qu'un tiers de Québécois francophones qui sont bilingues, mais c'était quand même un pourcentage assez élevé parce qu'ils sont en général assez bilingues. Et il y a une différence là-dessus qui sont capables d'écrire en anglais de façon assez facile et de certainement de lire en anglais. Donc, ils ne sont pas justement soumis ou inférieurs au choix de traduction, soit les éditions à lire, soit les éditions français, donc ont accès directement à ces fonds en anglais. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est curieux, moi, je reprends ma casquette d'éditeur, ma casquette de directeur de revue de l'époque, on avait très peu de soumissions francophones canadiennes, alors qu'a priori, on lit la langue directement, il n'y a pas de problème. Mais on a l'impression que le fait de franchir la cantine, de proposer de l'autre côté, les auteurs me disaient aussi, tu comprends, vous avez des délais de publication qui sont très différents. Nous, on met du temps à publier parce qu'on a, en général, quand j'acceptais que les Galaxies, ce n'était pas un roman, puisqu'on n'avait que 4 ans de roman. Et mais, tu comprends, tous mes voisins ne lisent pas Galaxies, alors que tous mes voisins lisent ce service. Donc, c'est mieux pour moi de. Il est clair qu'au Québec, il y a des auteurs qui. Naturellement, alors pour un auteur québécois, la France est un pays étranger. On a beau être cousins depuis de longue date, il s'est passé presque 3 siècles depuis que les voies ont divergé. Et pour un Québécois, comme disons Daniel Cernil, né au Québec, grandi au Québec, qui a publié, évolué dans le milieu de l'édition francophone, publié en France, c'est bien. Étrangers, au même titre que le Japon, les États-Unis, la Grande-Bretagne, bon, avec un petit plus quand même, mais moi j'ai un pied dans les deux pays, parce que ma mère était française, et j'ai pas de famille aux États-Unis, donc pour moi, les frontières, en tout cas, sont beaucoup plus poreuses mentalement. Mais pour d'autres auteurs, c'est demander à un auteur français pourquoi il ne voit pas ses textes en Pologne ou en Allemagne.
Pour des raisons de langue uniquement. Si les Allemands lisaient le français, on aurait le texte en Allemagne.
Ben, ce serait un bon test, mais justement, ça relève de l'Uchronie. Alors, on peut difficilement savoir.
Actuellement, les éditeurs de l'imaginaire que je connais, pratiquement tous les confondus, ne lisent que de langue, la leur anglais.
Oui, et c'est justement mon avantage, c'est de pouvoir justement parfois soumettre des textes en anglais à des éditeurs hors de la sphère francophone.
Moi, j'avoue que honteusement, j'ai eu la chance d'être traduit par Jean-Louis et un certain nombre de mes textes publiés aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon en général ont été traduits par Jean-Louis. On les retrouve dans les recueils, c'est chouette. Et ce qui m'étonne toujours, c'est que, effectivement, tu peux appliquer ce talent à toi-même. Je sais que tu en as fait un certain nombre, et moi je me dis, si j'avais ta compétence, je le ferais de manière beaucoup plus systématique. Quoi. Mais il y a un peu de temps, bonjour,
voilà, c'est de nouveau la même accumulé beaucoup de refus aussi avant de placer un texte. Il y a beaucoup de marchés, justement, potentiels aux États-Unis. C'est l'intérêt pour aucun, pour le monde anglophone, c'est l'intérêt de la chose. Mais quand même, si on a une bonne nouvelle, si on peut avoir une bonne nouvelle en anglais, les délais sont assez longs. Divergent, Hunger Games, qui ont fait un pas au Canada, c'est clair chez les jeunes. Et débutants, puis il y a des auteurs jeunesse qui commencent à se, essayer d'explorer ce créneau.
Et je me rappelle, je crois que c'était en 1987, où la première fois que je suis allé au, Canada francophone, donc je suis allé à Chicoutimi, invité par quelqu'un qui s'appelle Elisabeth Moulin-Bleu, qui malheureusement n'est pas là cette année, qui a abandonné au dernier moment de retraite, et qui m'avait présenté effectivement deux petits jeunes en me disant voilà l'avenir de la science-fiction canadienne francophone, et c'était Yves Ménard et, Jean-Louis Trudel, et elle ne s'était pas beaucoup plantée, on peut pas dire. Parce que quand on voit la carrière qu'ont fait les deux invités en question, ça. Et c'est vrai que de penser que tu restes encore d'une certaine façon là des petits jeunes, ben c'est.
En science-fiction, bon, il faudrait que je m'assoie pour réfléchir. Mais c'est ça, il y a. Il y en a de nouveau, mais c'est pas. J'ai envie de dire qu'à part justement cette science-fiction naïve dont j'ai parlé, qui est s'auto-édite, à part les auteurs de SF Jeunesse comme Patrice Cazot, qui font des choses, qui font des séries très intéressantes, mais qui est justement sur la ligne entre le jeunesse et le jeune, enfin, pour les jeunes adultes, quelque part entre les deux, et la série Un Biston de Véronique Drouin, alias Emily Fontaine. C'est du post-apo qui est c'est trop cru, quelque part, pour être du roman jeunesse, mais d'autre part, il y a quelque chose dans le style des personnages qui me rappelle encore une fois un peu du jeu des jeunes adultes. Elle est réellement tout un coup. Pas tout non plus. Donc il y a des nouveaux auteurs qui apparaissent et qui, avec une bonne direction littéraire, entre autres, je pense à Véronique Drouin, pourraient faire des choses très intéressantes et aussi peut-être un peu plus de lecture. Patrice Cazot aussi, j'aimerais voir ce qu'il ferait avec un bon directeur littéraire. Louis Allard, de dire quelque chose. Oui, j'aime bien ça, sa trilogie de fantasy ancrée dans le terroir québécois. J'essaie de me souvenir de ce qu'il a fait en SF. Mais c'est. Ok, il y a des manuscrits en attente.
Voilà, on a des scoops, on sait avant même que ça soit publié que certaines choses vont surgir. Mais c'est vrai que c'est une littérature d'expression française au Québec qui m'a toujours fasciné d'abord parce qu'elle a une langue. Et il est clair que c'est de la française, mais il est clair que ce n'est pas notre français, donc c'est le vôtre. Et c'est aussi une façon de narrer qui n'est pas tout à fait la nôtre. Donc, c'est à la fois une littérature dans notre langue et une littérature de l'anecdotisme étonnant.
De toute façon, j'ai envie de dire ce qu'il y a de toute façon, la science-fiction au Canada est maintenant franco-ontarienne parce que, il y a moi, même si j'habite au Québec depuis 20 ans à peu près, mais je travaille depuis 12 ans à Ottawa, 3 ou 4 jours par semaine. Et Yves Ménard a déménagé depuis l'an dernier en Ontario. Michel Laframboise a déménagé en Ontario depuis plusieurs années. Ça fait encore plus de science-fiction.
Bon, l'éloignisation de l'Ontario, voilà, il y a une captation de toute la littérature avec les Français.
Ça a été Yves Ménard qui a écrit beaucoup de science-fiction depuis un moment, mais c'est amusant de voir ce mouvement vers l'Ontario de certains formes trop tard.
Je pense qu'on approche de la fin. Est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Louis spécifiquement pendant qu'il est encore là, avant de lui sauter sur le poil pour lui faire dédicacer des bouquins pour le coup. Mais en tout cas, lisez-le. Et moi, je répète encore, je suis toujours fasciné. Je suis toujours fasciné en particulier par la structure de tes nouvelles, qui sont des structures en disant voilà, on a telle hypothèse, maintenant j'ai quelqu'un de curieux qui va démonter tout ça pour voir jusqu'où ça peut aller. Mais ça, c'est l'essence même de la science-fiction pour moi, et c'est quelque chose que nous, autres francophones, ne faisons pas bien.
Merci. Je suis en même temps que tu parles, j'essaie de réfléchir à est-ce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, je suis aussi bon tributaire de. Mais on pourrait parler effectivement de l'école d'écriture nord-américaine. Depuis que je fais des ateliers d'écriture et que j'ai récupéré, disons, certains schémas qui ont fait partie, disons, qui étaient déjà, disons, pas enseignés, mais qui étaient déjà étudiés à l'intérieur d'un groupe d'écriture auquel il et moi avons appartenu à la fin des années 80 à Ottawa. C'est-à-dire